Marche. On continue ce soir. On était dans une étude sur Joseph dans Genèse 37. On va retourner dans Genèse 37. Puis, on avait regardé la semaine passée. Le premier point, c'était le choix du père. C'est que Jacob avait choisi Joseph. On avait parlé, est-ce que c'était du favoritisme? On voit que c'était vraiment que Jacob voyait en Joseph celui qui serait l'héritier, celui qui serait prendrait la position dans la famille pour transférer la bénédiction et qu'il soit un bénéfice à toute la famille. Puis on va voir que on a vu que son choix c'était pas du favoritisme, c'était vraiment de reconnaître que c'était ce qui était mieux pour la famille. Mais les autres points qu'on va regarder ce soir, on va regarder la haine de ses frères, comment ses frères l'ont haï, puis ils l'ont haï sans cause. Puis le troisième point, c'est la tunique de plusieurs couleurs. Puis le quatrième point, c'est l'humilité de Joseph qu'on va voir. Mais je pense que ce soir, on va regarder le deuxième et le quatrième point parce qu'ils sont moins longs. La tunique de plusieurs couleurs, on la gardera pour la semaine prochaine. Mais avant d'aller plus loin, on va lire dans Genèse au chapitre 37. Genèse au chapitre 37, au verset 1, dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit: Me voici. Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph allait à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: Que cherches-tu? Joseph répondit: Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et retenons-le dans une. Et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe et qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites les tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Seigneur, on va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander au Seigneur de nous aider dans notre étude. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de ce que tu es avec nous, de ce que tu nous as promis, Seigneur, que si on se réunit deux ou trois en ton nom, tu vas être au milieu de nous. Et Seigneur, on te demande que tu nous aides dans ta parole. On sait qu'avec ta parole, tu nous as donné ton esprit pour nous aider à comprendre. Et Seigneur, on sait qu'on a des leçons à apprendre à travers ses écrits, même quand on pense de Joseph, qui nous fait penser beaucoup au Seigneur Jésus-Christ dans son expérience, il décrit ce qu'était l'expérience de ton fils, le Seigneur Jésus, ici sur la terre. On te remercie de nous l'avoir envoyé, puis on te rend grâce parce que tu nous as pardonné, Seigneur, et qu'on a pu entrer en contact avec toi et t'en réconcilier. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça, on va regarder ce soir, c'est que la haine des frères de Joseph, puis la haine de ses frères, on la voit dans le verset 4 et 5, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Au verset 8, il dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 18, il dit, ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Au verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Donc on voit la haine de ses frères qui augmente même, qui est grande envers Joseph. Pourtant, Joseph, il leur disait qu'est-ce qu'il avait vu, les songes qu'il avait vus, puis le fait que son père l'avait choisi aussi. Mais on se demande est-ce qu'il avait raison de haïr Joseph? C'est sûr que la réponse est non, on n'a jamais raison d'haïr quelqu'un, on ne doit pas haïr. Mais il n'y avait pas raison parce que d'un côté, Joseph est devenu leur seul espoir pour les délivrer de la famine. Parce qu'ils étaient. En fait, ils allaient rencontrer une famine. Puis dans cette famine-là, on voit que Joseph, en dépit de toute la haine qu'il avait contre lui, Joseph, il va les aider à ce moment-là. C'est que le Seigneur, mais quand on pense toujours à comparer l'expérience de Joseph avec l'expérience du Seigneur Jésus, quand on sait que Joseph, plus tard, quand ils vont venir se prosterner devant lui, selon les songes que Joseph avait eus, dans Genèse 44 au verset 5, il va dire, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et vous, les paroles de Joseph, en dépit de la haine qu'il avait pour lui, quand c'est arrivé à son tour de leur montrer de sa bonté, bien, il leur a même dit, il a dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Donc, il n'y avait pas en lui cet esprit-là de vouloir se venger. Le Seigneur, puis on sait que quand on compare avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ aussi, lui, il va, un jour, il va être celui qui va être l'espoir de ses frères. Ses frères l'ont haï, comme le Seigneur a dit. Ils m'ont haï sans cause. Mais il va leur faire du bien à ce moment-là, comme Joseph l'a fait aussi. Quand le peuple d'Israël vont crier vers leur Messie dans la tribulation, quand ils vont crier pour être délivrés vraiment, ils sont au point dans la tribulation, ils vont être au point d'être détruits par leurs ennemis. Puis à ce moment-là, ils vont crier au Seigneur Jésus, ils vont crier pour leur Messie, puis quand il va venir, bien, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Parce que le Seigneur leur avait dit avant de partir dans Matthieu 23, au verset 39, il leur avait dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si on compare Matthieu 21,9, c'était après, Matthieu 21,9 était avant qu'il leur dise ça, mais quand il s'est présenté à Jérusalem, il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc, le Seigneur était venu, puis c'était vrai quand il parle du fils de David, on sait que les promesses qui avaient été faites à David, c'était que son fils viendrait, puis il y aurait un règne éternel. Le Seigneur Jésus se présentait à eux pour leur offrir ce règne-là, mais il y en a qui ont crié ces choses-là, mais après, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais le Seigneur, il leur a dit à ce moment-là, il dit « Vous ne me verrez plus désormais ». Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, quand même en leur disant qu'ils ne le verraient plus, il leur donne quand même un espoir qu'un jour, quand ils vont demander pour voir leur Messie, eh bien, il va venir à ce moment-là, comme Joseph l'a fait, là. C'est sûr qu'on voit dans l'histoire de Joseph que Joseph ne s'est jamais plaint. On voit la haine de ses frères, on a lu à propos de la haine de ses frères qu'il le haïssait de plus en plus. Il leur racontait ses songes, mais Joseph ne s'est jamais, on voit pas qu'il s'est plaint d'eux autres, puis il s'est pas fâché non plus. Il n'a pas cherché de la vengeance contre ses frères, même s'ils lui ont fait du mal, il n'a pas cherché la vengeance. Une fois, je parlais avec un frère qui avait des problèmes avec l'Assemblée, puis il m'avait dit qu'il était comme David. Il était comme Joseph. Ses frères l'avaient vendu. Mais lui, il était plein d'amertume, puis il cherchait de la vengeance. Puis j'avais dit à ce moment-là, j'ai dit non, j'ai dit, t'es pas comme Joseph. Parce que Joseph, lui, il voulait pas, il cherchait pas la vengeance, puis il n'était pas fâché non plus. On voit pas qu'il y avait aucune haine contre ses frères qui le haïssaient sans cause. Mais Joseph, on voit au contraire que lui, il voulait les bénir. Puis je lui disais ça, j'ai dit, si tu serais comme Joseph, tu voudrais bénir tes frères. Mais là, t'es pas comme Joseph, t'es dans l'amertume, puis tu cherches la vengeance. Mais c'est certain que quand on pense à la haine, ça ne vient pas de Dieu, la haine. Puis c'est important on a besoin de se juger, si on a de la haine envers des frères et des sœurs, même envers le monde, d'avoir de la haine, on n'a jamais raison d'avoir de la haine. Dans Jacques au chapitre 3, au verset 14-16, il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, la parole de Dieu nous dit que c'est pas bien d'avoir de la haine, puis avoir un zèle amer, puis un esprit de dispute. Ça vient pas de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est plutôt pacifique, paisible. On voit que ces choses-là, c'est le thème de la première épître de Jean. Quand Jean il parle de son premier épître, on sait que le thème de ça, c'est la communion. Mais la communion avec Dieu ne nous amène pas à avoir de la haine. Dans 1 Jean au chapitre 2, versets 8 à 11, il nous dit ici, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Puis là, il dit, celui qui prétend être dans la lumière, ça, c'est la communion avec le Seigneur, et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, Jean est assez catégorique là-dessus pour ceux qui ont de la haine. Puis, Ça, c'est la différence entre les ténèbres et la lumière. Quand on est dans la lumière, comme Jean dit, on n'est pas dans la haine. Mais si on est dans la haine, c'est une preuve qu'on est dans les ténèbres. C'est ça, les frères de Joseph, ils démontraient qu'ils n'étaient pas dans la communion. Ils ne pensaient pas comme Dieu, parce que à l'arrière de toute l'histoire de Joseph, on sait que Dieu avait son plan, puis Dieu accomplissait son plan. Donc, même en haïssant Joseph, c'était contre le plan de Dieu qu'il murmurait. Mais le Seigneur Jésus aussi, quand il était devant les chefs religieux, dans Jean 8, on voit que les chefs religieux, ils haïssaient aussi le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur, il leur parlait, puis il leur révélait que vraiment, cette haine-là venait pas de... Ils parlaient, eux, qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Mais si on regarde dans Jean 8, le verset 39 à 44, il dit, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Donc, eux aussi, ils haïssaient le Seigneur Jésus. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, on parle d'être dans communion avec Dieu, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et vous, comment le Seigneur Jésus ici s'adresse à eux pour leur montrer vraiment que c'est la haine, hein, ça vient pas de Dieu, ça vient pas. Puis les frères de Joseph avaient aucune raison de haïr Joseph à cause de ce que son père l'avait choisi pour être la bénédiction pour la famille. Puis il va le démontrer dans le futur. Il va démontrer la réalité de que Jacob avait fait un bon choix en choisissant Joseph. Dans 1 Jean 3, 10, il nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, c'était important qu'ils aiment, qu'ils auraient aimé Joseph, parce qu'il y aurait eu raison d'aimer Joseph. Dans 1 Jean 3, 12, comme on a dit dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, ben Jean, il parle beaucoup de cette communion-là avec Dieu qui se transmet dans l'amour. Jean parle beaucoup d'amour, puis il dénonce aussi la haine. Et dans 1 Jean 3, 12, il dit, il ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. C'est un peu le cas ici avec Joseph et ses frères. Leurs œuvres étaient mauvaises. On sait que quand on lit dans l'histoire, Joseph rapportait à son père leurs mauvais propos. Donc, ils n'avaient pas vraiment à cœur la business de leur père et ils ne prenaient pas soin de la business de leur père comme leur père aurait voulu qu'ils en prennent soin. Mais Joseph, il voyait ces choses-là. Puis, c'est pour ça qu'il était haï de ses frères, parce qu'il rapportait son père les mauvaises choses qu'il faisait. Parce que lui, Joseph, il avait vraiment à cœur les choses, l'intérêt de son père. Puis quand on pense au Seigneur Jésus, ben c'est sûr que le Seigneur Jésus avait vraiment à cœur les choses de son père. Puis il s'en est occupé, il s'est donné lui-même pour racheter, pour accomplir le plan de rédemption que son père avait pourvu pour les hommes. C'est ça qu'on voit. Donc, c'est le fait que les frères de Joseph n'avaient pas raison d'haïr Joseph. Ils l'ont haï sans cause. Comme il est dit du Seigneur Jésus, ils l'ont haï sans cause. Puis, si on voit dans la haine des frères de Joseph, dans l'histoire de Joseph, eh bien, combien plus on voit dans les évangiles comment les chefs religieux ont haï le Seigneur Jésus tout au long de son ministère. Ils ont toujours cherché à trouver des fautes avec lui. Ils ont toujours cherché à le disqualifier. Ils n'ont jamais voulu se soumettre à lui. Puis ils ont été envieux. C'était par envie qu'ils dénonçaient le Seigneur Jésus. Puis ils empêchaient les autres de venir au Seigneur Jésus pour être sauvés. Donc ce n'est pas une bonne chose d'avoir de la haine. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient plutôt du malin, comme le Seigneur l'a dit, comme Jean le dit aussi. Donc maintenant, on va regarder l'humilité de Joseph. On voit la haine d'un côté, mais de l'autre côté, on voit de sa part une grande humilité. Puis cette humilité-là, ben, ça nous parle du Seigneur Jésus aussi. Parce que le Seigneur Jésus a été humble même. Puis pour nous autres, d'être humble, des fois, c'est normal. On est à cause de notre position. Mais quand on pense à la position du Seigneur Jésus, pour lui, de s'humilier, c'était plus grand que nous autres, on s'humilie. Mais quand on voit son humilité dans les versets 7, il dit, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc, quand il dit, nous étions à lier des gerbes, Joseph était avec ses frères, il travaillait avec eux, il était à lier des gerbes au milieu des champs avec eux. Donc, il était au même niveau qu'eux. Ça nous parle de l'humilité du Seigneur Jésus qui s'est humilié, qui a pris la forme d'un serviteur, qui est devenu à notre niveau pour nous sauver de nos péchés. Dans le verset 13, il dit, on voit son humilité encore parce que, vous savez, Joseph savait que ses frères le prenaient en haine. Mais quand son père lui a demandé au verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et on voit la réponse de Joseph ici, qui est sans hésitation. Il dit, me voici, envoie-moi. Mais il s'en allait vers ceux qui le haïssaient, ceux qui ne prenaient pas à cœur l'intérêt de leur père. Leur père veut l'envoyer vers eux pour voir comment ils se portaient. Puis Joseph est prêt, il dit, me voici, envoie-moi. Il était prêt à aller. Donc on voit qu'il était dans les champs avec eux, en train de lier des gerbes. Il travaillait avec eux, même s'il y avait aux yeux de son père une position élevée. Joseph, il travaillait avec eux à lier des gerbes. Si on va dans Jean 6, 42, dans le chapitre 6 de Jean au verset 42, regardez, on fait toujours la comparaison avec le Seigneur Jésus. Et, attendez un petit peu, Jean 6 au verset 42. Il dit ici, et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Ça c'était pour eux autres, à cause de son humilité, à cause de l'humilité du Seigneur Jésus, il connaissait comme le fils de Joseph, il connaissait comme celui dont on connaît le père et la mère, puis il avait de la difficulté à passer au-dessus de son humilité. Parce qu'il dit, comment tu peux dire que tu descends du ciel quand tu es le fils de Joseph, puis on connaît ton père puis ta mère, tu as vécu ici, tu as grandi à Nazareth, dans une ville qui n'était pas vraiment populaire. Mais l'humilité du Seigneur Jésus était même un obstacle pour eux autres. Ils ne pouvaient pas voir en lui celui qui pouvait dire qu'il était descendu du ciel. Mais si on va dans Ésaïe 53 aussi, on voit l'humilité du Seigneur Jésus. C'était une grande humilité à cause du fait qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Il était celui qui était descendu du ciel, mais il s'est trouvé parmi nous. Puis regardez dans Ésaïe au chapitre 53, le verset 2, même au verset 1, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour me plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voyez-vous comment était grande l'humilité du Seigneur? Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'était pas, Seigneur Jésus n'était pas dans les palais des rois, même qu'il nous dit qu'il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Seigneur Jésus, souvent, il passait la nuit en prière, il servait toute la journée, il était avec il guérissait les malades, il enseignait les foules, il nourrissait les foules, mais le Seigneur Jésus ne prenait pas une position élevée. Il est resté dans l'humilité pour pouvoir servir, nous servir, nous les hommes, servir son peuple aussi. Dans le livre de Cantique en anglais, Believer's Hymn Book, la troisième strophe, c'est un beau cantique. Je l'ai, c'est une traduction de ma part, là. Il dit, ta mort d'opprobre et de douleur était comme ta naissance. Donc, il compare la mort du Seigneur Jésus, c'est une mort douloureuse, une mort dans l'opprobre, dans la honte. Il dit, ta mort d'opprobre et de douleur était comme ta naissance qui n'emprunta aucune gloire ou majesté de la terre. J'aime la façon qu'il dit ça. Il n'a pas emprunté aucune gloire ou majesté de la terre. Quand on peut voir la gloire puis la majesté du Seigneur Jésus, c'est cette gloire-là qui était avec lui, c'était sa gloire éternelle. Mais il n'a pas emprunté d'ici sur la terre. Il n'a pas fait en sorte qu'il soit né dans une famille riche ou qu'il soit né dans des palais ou qu'il ait. Il n'a pas pris aucune gloire de la terre, puis aucune majesté de la terre, mais c'était vraiment, il venait du ciel, puis c'est ça qui nous impressionne, comment il a pu être semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait aucun éclat, aucune beauté pour attirer le regard. Seigneur Jésus aurait pu prendre des gloires comme on pense à des fois des vedettes, tout ça, ils ont des gloires qui viennent de la terre. Puis les gens se prosternent devant les autres, les gens les respectent à cause de cela. Mais Seigneur Jésus n'est pas venu de cette façon-là. Il est venu, il était parmi nous comme un simple homme. Il était comme même un serviteur. Puis quand on voit dans Philippiens 2,8, on voit comment le Seigneur Jésus s'est tellement humilié. Dans Philippiens 2, au verset 8, il dit, mais au verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, dans son humilité, le Seigneur Jésus, il dit au verset 9, c'est pourquoi aussi, à cause de son humilité, comment il s'est humilié, à cause de ça, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, de la même façon, comme Joseph, il était parmi eux, il liait les gerbes, il était un des fils dans la famille, comme les autres fils. Mais il travaillait avec eux, et même quand son père voulait l'envoyer voir ses frères pour prendre soin d'eux, pour vérifier comment ils allaient s'informer de leurs conditions, Joseph était prêt, puis il dit, me voici, envoie-moi. Le Seigneur Jésus aussi est venu comme ça. Mais à cause de cette humilité-là, ben, il a été élevé dans la gloire. Le Seigneur Jésus a été élevé dans la gloire. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Puis on va voir aussi dans l'histoire de Joseph, que Joseph va être élevé aussi. Il va être élevé, mais pas à cause de ses frères, pas à cause de sa famille. Il était vendu comme un esclave dans un pays étranger, mais par les circonstances que Dieu a amenées, et Joseph il a été élevé jusqu'au trône de l'Égypte. Parce il était aussi haut que Pharaon, c'est lui qui dirigeait le pays d'Égypte. C'est ça qui est arrivé avec le Seigneur Jésus. Il s'est humilié, puis à cause de ça, Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Joseph étant rejeté par ses frères, il ne reçut rien de ses frères pour sa gloire. Ça ne venait pas de ses frères, sa gloire qu'il a eue, C'était quelque chose d'étrange, même qui, quand ses frères vont aller se prosterner devant lui, au début, ils ne le reconnaîtront pas. Ils vont le voir comme celui qui dirige en Égypte, ils voient sa gloire, mais ce n'est pas une gloire qu'eux ont, ou sa famille, ce n'est pas à cause de sa famille, c'est vraiment à cause que Dieu l'a élevé en gloire aux yeux dans le pays de l'Égypte. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Quand ils vont le voir dans sa gloire, ils vont réaliser que ce n'est pas à cause d'eux autres que le Seigneur Jésus avait cette grande gloire-là. Ça vient vraiment de Dieu qui l'a souverainement élevé et qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, quand on regarde ça, l'humilité de Joseph ici, là, bien c'est quelque chose, c'est ça, un petit peu, ça vient pas de ses frères, mais ça vient vraiment de ce que le Seigneur a fait avec lui. Un petit peu, je cherchais un petit peu, j'ai les notes là. On continue de regarder l'humilité de Joseph qui nous parle de l'humilité du Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai pas une table devant moi? Je vais un petit peu pour trouver mes notes là. Okay. Il manque une page. Voilà. Ah, c'est ici. Ouais. Ça, attendez deux. Ok. Okay. Quand on pense à l'humilité du Seigneur Jésus, c'est que vraiment, c'était le péché originel, ben, c'est l'orgueil. Puis l'humilité, ben, c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est par là que le Seigneur Jésus a eu la victoire. Parce que Satan, on sait que le péché de Satan, c'était un péché d'orgueil. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Mais Dieu l'a abaissé. Le Seigneur Jésus, lui, il est venu pour vaincre ce péché-là, pour donner la victoire sur le péché. Il s'est humilié. Puis il a vraiment vaincu l'orgueil par l'humilité. Si on veut regarder dans Luc au chapitre 1, on voit le cantique de Marie. Dans Luc au chapitre 1, le cantique de Marie, après qu'elle a vu les choses que le Seigneur lui a dit, on voit que elle nous parle du Seigneur Jésus dans les versets 51 et 52 de Luc 1, Marie dit, il a déployé sa force, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et vous, Seigneur Jésus a vraiment vaincu l'orgueil par l'humilité. Comme Joseph aussi, il va vaincre la haine de ses frères, leur orgueil, parce que c'était de l'orgeil, il voulait s'élever au-dessus de lui, il ne voulait pas reconnaître qu'il était au-dessus de lui. Mais ici, elle a dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Et vous, comment le Seigneur Jésus, dans son humilité, il a vraiment vaincu l'orgueil qui était le péché, puis même, on regarde les Juifs, ils étaient orgueilleux, ils ne voulaient pas reconnaître que le Seigneur Jésus était au-dessus d'eux. Donc, il a vaincu l'orgueil par l'humilité. C'est vraiment la seule façon. Puis c'est pour ça que pour être sauvé, on est orgueilleux. Puis pour être sauvé, il faut s'humilier. Puis si on ne s'humilie pas dans la repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, c'est vraiment, le Seigneur est venu nous montrer le chemin vers la gloire, se passe par l'humilité, puis les souffrances. Puis dans 2 Corinthiens au chapitre 5, on voit que le Seigneur fait un combat contre le péché sur la terre, mais il fait, c'est pas comme les gens penseraient. Hein. On pensait que pour vaincre des ennemis, il faut venir en puissance avec, puis vraiment pouvoir combattre contre les ennemis. Mais le Seigneur, il a combattu un combat et il a eu la plus grande victoire qu'on peut connaître, mais il l'a fait dans l'humilité. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 5, il nous dit ici, car il nous faut tous, attendez, dans 2 Corinthiens 5, ouais, au verset, dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, excusez, 2 Corinthiens 10, au verset 5, il nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, nous aussi, le combat se fait contre l'orgueil, le combat se fait dans l'humilité. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécial que le Seigneur Jésus n'est pas venu ici sur la terre. S'il serait venu dans sa puissance, s'il serait venu dans sa majesté pour lutter contre le péché, comme il va le faire un jour quand il va venir le jugement, ben, on aurait tous péri. On aurait tous été perdus à cause de notre orgueil. Mais le Seigneur est venu combattre un grand combat. Puis il l'a fait dans l'humilité. Qui aurait pensé, même ils se sont moqués de lui quand le Seigneur Jésus était sur la croix, qu'il combattait le plus grand combat de l'humanité, puis qu'il allait gagner ce combat-là. Il l'a fait dans une grande humilité, la plus grande humilité. Il a été, même on lui a enlevé ses vêtements, il était dans la honte, on s'est moqué de lui, on a dit, il a sauvé les autres, il ne peut pas sauver lui-même. Mais le Seigneur Jésus aurait pu être sauvé. Il avait dit qu'il aurait pu appeler 10 légions d'anges, puis, mais il l'a pas fait parce que dans l'humilité, il s'est laissé mettre sur la croix comme une brebis muette devant ceux qui le tombent. On va regarder aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 Corinthiens 1, les versets 23 à 29. C'est quelque chose quand on pense à l'humilité du Seigneur Jésus. Mais dans son humilité, le Seigneur Jésus a fait une œuvre extraordinaire qui va passer l'éternité à être glorifiée à cause de son œuvre. Dans 1 Corinthiens 1, versets 23 à 29, il est dit, nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et nous-mêmes, le message qu'on prêche, c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens, parce que scandale pour les Juifs, parce que c'est maudit et quiconque est pendu au bois. Le Seigneur Jésus était pendu à la croix. Il dit, mais puissance de Dieu. Donc c'est une folie, c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour combattre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il y a eu tout un combat qui a été combattu, que le Seigneur Jésus a combattu là, pour nous amener vraiment à lui, mais il l'a fait dans l'humilité. Puis Joseph était comme ça aussi, il était humble, il s'est laissé prendre par ses frères, ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent, il a été amené comme esclave en Égypte, puis il a été accusé à tort, il a été mis en prison, C'est toujours comme une grande humilité. Joseph n'a jamais réclamé rien. Il s'est laissé faire, mais c'est Dieu qui, lui, l'a élevé. Puis Joseph, à cause de toute cette humilité-là, à cause du fait que ses frères, comme il a dit à ses frères, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu, parce que Dieu a utilisé ça pour l'élever dans la gloire au point qu'il a été élevé. Donc, c'est vraiment quelque chose. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est vraiment le seul qui peut dire qu'il est humble tout en restant humble. On se fait une gloire d'être humble. Mais le Seigneur Jésus, il a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, le Seigneur Jésus, il est resté humble. Puis, Joseph aussi, dans son humilité, il était prêt vraiment à servir, à être un serviteur. Puis, quand son père lui a demandé d'aller voir ses frères, il est allé, il était bien voulant d'aller voir ses frères, puis d'aller voir s'ils se portaient bien. Puis, même, il les a cherchés parce qu'ils n'étaient même pas où ils étaient supposés d'être. Puis il était errant dans les champs, puis quelqu'un lui a demandé, puis il a dit qu'il cherchait ses frères. Le Seigneur Jésus, quand il est venu ici sur la terre aussi, son peuple n'était pas là où il devait être spirituellement. Ils ne l'ont pas reconnu. Il les a cherchés. Le Seigneur Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis nous aussi, on n'était pas où ce qu'on aurait dû être quand le Seigneur Jésus est venu. Il nous a trouvés dans notre péché. Il nous a cherchés, il nous a trouvés où ce que nous étions, puis il venait pour nous sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Mais une chose qui est étonnante avec le Seigneur Jésus, c'est que une fois, je regardais, il y avait un livre que j'avais vu il y avait une table de livres, puis ça marquait sur le titre, c'était L'Éternel Serviteur, The Eternal Servant. Puis là, j'ai dit, ben, ça ne peut pas être d'autre chose que le Seigneur Jésus, mais ça peut-tu être le Seigneur Jésus? Fait que j'ai acheté le livre. Puis c'était juste un petit booklet, mais un petit livret. Mais c'était vraiment étonnant de voir comment c'était le Seigneur Jésus. Puis il partait le livre était sur le verset de Luc 12, 37. Quand on regarde Luc, chapitre 12, le verset 37, c'est ça qui. Ça m'a frappé. Puis. C'est quelque chose de penser au Seigneur Jésus qui, oui, il est venu, il était serviteur, mais on se dit, maintenant, il est exalté dans la gloire, puis maintenant, il va être majestueux, mais le Seigneur Jésus demeure un serviteur éternel. Puis ça m'avait vraiment frappé, j'ai jamais oublié ces choses-là. Quand le Seigneur Jésus, il dit, au verset 35 de Luc 12, il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Pardon. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Et vous, le Seigneur Jésus, il est un serviteur, mais il est comme le chef des serviteurs. Puis nous autres, en le recevant comme notre sauveur, on s'est fait des serviteurs de Jésus-Christ aussi. Mais lui, il est un serviteur. Puis même quand dans la chambre haute, avant d'aller à la croix, quand il s'est approché, il a enlevé son vêtement, il s'est ceint de linge, puis il s'est approché pour laver les pieds de ses disciples. C'est comme méconnu pour nous autres, ça. Puis Pierre a dit, toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds. C'est drôle, les autres n'avaient pas pensé à faire ce travail-là, mais le Seigneur Jésus, il l'a fait pour eux. Puis il a dit à Pierre, il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Ben, il dit, lave-moi tout entier. Puis le Seigneur a dit, non, celui qui a été baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Puis le Seigneur, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître et vous dites bien car je le suis. Mais si moi, le Maître et le Seigneur, je vous lave les pieds, ben, il dit, lavez-vous les pieds, vous, les uns les autres aussi. Fait qu'on apprend de celui qui est le serviteur éternel. Il a servi ici quand il était sur la terre. Il va nous servir dans toute l'éternité. Mais combien si nous autres, on reconnaît lui comme le Seigneur, puis qui lui est prêt à servir, et combien nous autres, ça nous incite à servir aussi. À servir le Seigneur Jésus, mais à servir les autres aussi. Voyez-vous comment, quand les frères de Joseph, ils l'ont vu en Égypte, puis qu'ils se sont soumis devant lui, puis qu'il leur dit que ne vous fâchez pas parce que c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Puis il va les servir, il va les prendre, il va les emmener en Égypte, il va prendre soin des autres, il va pourvoir à tous leurs besoins. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait aussi. Il s'est fait serviteur. Puis dans son rôle dans la Trinité, il se soumet à son Père dans tout ce que son Père veut. Seigneur Jésus est un serviteur, mais pas juste de son Père, il est un serviteur pour nous aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis si on va dans l'Apocalypse au chapitre 5, au verset 12, dans l'Apocalypse au chapitre 5, au verset 12, on voit aussi le Seigneur Jésus ici, au verset 12, il dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, c'est l'agneau qui a été immolé. Puis, ce n'est pas une révérence qui lui vient par la force. Le Seigneur ne nous a pas tordu le bras, il nous a pas, il nous a laissé, il nous a sauvés, puis il nous a laissés libres. Mais à cause du fait qu'il s'est humilié, puis qu'il est devenu notre serviteur, qui s'est humilié pour nous donner sa vie pour nous, bien, il va recevoir la gloire, la louange de la part de son Père, mais aussi de la part de ses rachetés aussi. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous savez, dans les autres religions, Dieu n'est pas décrit comme ça. Hein, Dieu, c'est comme si on regarde parmi les musulmans, bien, Allah, c'est un Dieu vengeur qui tue, puis qui. Mais nous, c'est pas comme ça qu'est notre Dieu. Notre Dieu, oui, il est tout puissant, mais il est aussi humble, puis il est doux, puis il prend soin de nous, il nous a sauvés. Il n'a pas attendu que nous, on fasse le premier pas. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous quand il nous a vus dans notre condition, il s'est offert lui-même en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est ça, on voit ici l'humilité de Joseph. Dans l'humilité de Joseph, on voit l'humilité du Seigneur Jésus. Puis, il n'y avait pas aucun, même si les frères de Joseph, par après, quand leur père est mort, ils sont allés voir Joseph, puis ils avaient peur son père serait mort, que Joseph se venge sur eux. Mais dans Joseph, il n'y avait aucun esprit de vengeance à cause de son humilité. Il était pas, puis ça l'a affecté qu'ils lui disent ça, que son père avait dit de pas, le message qu'ils ont donné à Joseph. Mais vous savez, le nom de Dieu, c'est El Shaddai. Puis souvent, on traduit El Shaddai par le Dieu Tout-Puissant. Et c'est vrai, mais il y a un aspect dans le mot El Shaddai, quand on regarde la signification du mot, c'est la toute-puissance dans la douceur. C'est la toute-puissance dans la douceur, comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Donc, ce n'est pas une toute-puissance qui vient contre nous, mais c'est une toute-puissance qui se déploie pour nous, pour prendre soin de nous. Donc, c'est vraiment merveilleux de penser comme ça. Il est tout-puissant, mais tellement intentionné, tellement doux pour nous. Puis, c'est la puissance qui est contrôlée par la douceur ou manifestée dans la douceur. Donc, ce n'est pas une toute-puissance de vengeance, mais c'est une toute-puissance. C'est sûr que pour les inconvertis, ça va être le jugement de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est le Seigneur, il prend un tendre soin. Comme il disait, le Seigneur Jésus disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il disait, Pierre, il disait, tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, prends soin de mes brebis. Voyez-vous comment le Seigneur, c'est la toute-puissance. Mais la toute-puissance manifestée par les soins prodigués à ses brebis, prodigués à ses enfants. Et puis, c'est ça qu'on connaît du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a un musulman que je connais qui s'est converti. Puis, il s'est converti sur le fait, quand il a vu les paroles du Seigneur Jésus, quand il a été mis sur la croix, il disait, Seigneur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans l'amour du Seigneur Jésus qu'il a réalisé. C'est pas le Dieu qu'il connaissait dans l'islam, mais il a connu le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui aime, un Dieu qui prend soin. C'est le Dieu tout-puissant, mais qui est dans toute sa douceur, qui prend soin de nous comme une nourrice prend soin de son enfant. Donc, c'est ça l'humilité. Il a combattu un combat tellement puissant. Il y a eu une victoire sur Satan, sur le péché, par l'humilité. Il s'est humilié. Puis, c'est nous autres aussi, c'est notre exemple pour vivre notre vie chrétienne. On doit vivre notre vie chrétienne dans une humilité grande. Puis, c'est comme ça qu'on gagne des gros combats. C'est sûr que dans notre orgueil, c'est pas facile d'être humilié. Mais dans l'humilité, on gagne des grands combats qu'on ne pourrait pas gagner dans l'orgueil puis par la force. Mais le Seigneur Jésus, il a gagné ce combat-là. Il a été humilié jusqu'à la mort, même il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fait que je m'arrête là la semaine prochaine, Seigneur voulant. On regardera la tunique de plusieurs couleurs. Là, on a regardé le fait que le choix du Père, puis on a regardé aussi l'humilité du Seigneur Jésus, mais on avait regardé aussi la haine de ses frères qui n'était pas fondée, qui n'était pas selon Dieu. C'est vraiment pas un signe de la communion avec Dieu. Fait que je m'arrête là. Je vous donne la possibilité de reprendre votre micro si vous avez des questions ou des commentaires. On va faire ça pour un temps jusqu'à 8 heures.
J'aurais une présentation à vous faire.
OK.
Nous avons une nouvelle fenêtre qui est apparue ce soir. C'est Raymond et Raymonde.
Oui, j'ai
Oui.
vu ça, oui.
Alors, Raymond et Raymonde, ce sont des frères dans la foi de Gatineau.
Ah, OK.
Et puis, ils viennent à Cocuchir occasionnellement parce que leur fille est policière à Cocuchir.
OK.
Et lorsqu'ils viennent à Cocuchir, puis l'occasion se présente, bien, ils viennent nous rencontrer à l'Assemblée.
Ah, bon.
Alors, on vous dit bonsoir, Raymond et Raymonde. Bienvenue avec nous.
Ouais, bienvenue Raymond et Raymond, on est bien heureux que vous vous joigniez à
Bienvenue.
nous.
Peux-tu dire c'est quoi leur nom de famille?
Oui, c'est Raymond Carrier. Merci.
Raymond
Ah,
Carrier, oui.
on les a connus. On les a connus.
Ah
Ah,
oui?
oui. Oui,
Ah oui?
ils ont été à l'Assemblée de Sainte-Foy. Ils ont commencé leur vie chrétienne à l'Assemblée de Sainte-Foy.
Ah, OK.
Ouais.
Merci,
Bien.
Donald.
David, à Raymond, David a encore ton petit matelot que tu as tricoté.
Moi, j'aimerais ajouter que deux courts passages dans la première épître de Pierre,
OK.
pour ajouter la première épître de Pierre, chapitre 2, pour montrer premièrement la réaction du Seigneur justement à la haine. 1 Pierre, chapitre 2 et verset 22. On connaît bien le passage. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. On peut penser que Joseph aussi avait cette réaction, il s'en remettait à Dieu. Puis mon deuxième passage, c'est le chapitre 4, à partir du verset 12. Là, ça nous concerne. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, il n'est pas souhaitable que les gens nous haïssent parce qu'on fait le mal, mais que les gens nous haïssent parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on partage les paroles du Seigneur, mais c'est quelque chose de plus normal malheureusement dans le monde dans lequel on vit.
On voit que c'est un thème consistant dans la parole de Dieu. C'est comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui lui appartient, a marché sur les traces du Christ. Elle n'a pas, elle s'est pas vengée, mais elle a subi bien les persécutions, mais elle est restée ferme. Mais on sait que quand les chrétiens prennent les armes, là, c'est plus la pensée du Seigneur Jésus. On sait que la fausse Église a vraiment persécuté puis a fait mourir les vrais chrétiens, mais quand on regarde les vrais chrétiens, ceux qui ont suivi l'exemple du Seigneur Jésus, ils se sont pas vengés puis ont pas demandé la vengeance. Mais je me souviens aussi qu'il y avait un livre qu'on lisait, plusieurs peut-être l'ont connu, c'était Pardonne-moi Natacha. Là. Puis c'était quelqu'un qui était dans Sergueï Kourdakov qui travaillait pour les communistes. Puis il essayait de détruire l'Église, puis il avait été pour détruire dans des réunions de chrétiens. Puis il y avait cette femme-là, Natacha, qui était là, puis il la trouvait belle, puis ça choquait qu'elle était avec les chrétiens. Puis il l'avait battue, puis il la battait, mais elle priait pour lui. Puis ça l'avait comme vraiment bouleversé là, dans la prière, pendant que lui, il la battait. Pour plus qu'il voulait plus qu'elle y aille dans les réunions chrétiennes, ben, elle l'avait brisé dans l'humilité d'avoir prié pour lui. Puis c'est pour ça que le livre, ça s'appelait Pardonne-moi, Natacha. Puis éventuellement, il a été sauvé. Mais ça avait fait tout un impact sur lui. Là.
Pour revenir à l'humilité aussi, je me souviens de quelqu'un qui avait dit lui-même qu'il était humble. Moi, je trouvais ça bizarre un peu, parce que, encore là, c'est plus souhaitable que quelqu'un nous dise qu'on est humble plutôt qu'on le dise nous-mêmes. Parce que, comme tu le dis, c'est se penser humble, c'est de l'orgueil, finalement.
Ouais, c'est
Je
ça.
me souviens d'un frère aussi, un frère qui est présentement dans la présence du Seigneur, Monsieur Vincent Dévy. Plusieurs l'ont déjà connu, j'imagine, d'entre vous. Lui, il a déjà dit en prêchant qu'il était orgueilleux. Pourtant, ceux qu'il connaissait, il trouvait humble, et lui, il savait qu'il était orgueilleux.
Connaissez la personne qui avait gagné une médaille à cause de l'humilité?
Oui.
C'est qu'il la portait tout le temps, ça fait qu'un jour on lui a enlevé.
Il y a une parole là, qui me frappe dans l'histoire de Joseph, c'est que quand il s'est fait connaître à ses frères, puis il les a renvoyés, là, chargés de blé, puis de mets, puis de toutes sortes de choses là, du pays, au verset 24 du chapitre 45, on voit le cœur de Joseph, il leur dit, il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ne vous querellez pas en chemin. Ils connaissaient leur cœur, tu sais, avec tous les biens qu'ils nous avaient donnés, la jalousie, tout ça. Il dit, querellez-vous pas en chemin. Parce que ça l'attristait, ça l'aurait attristé. Puis c'est ce que le Seigneur nous demande aussi, querellez-vous pas entre frères. Tu sais, les querelles entre frères, c'est comme les verrous d'un palais. Faut pas, tu sais, faut vraiment subir. Comment qu'on subirait des injustices pour garder la paix, tu sais, c'est pas grave. Pas se quereller, c'est ce que le Seigneur nous demande. Puis c'était la force de Joseph, il voulait pas les querelles, il cherchait pas la querelle. C'est ça me touche de voir ça, qu'il mentionne ça, ne vous querellez pas en chemin. C'est ce que le Seigneur nous demande.
Ouais. Et aussi, comme Joseph, comme type du Seigneur Jésus, il a été maltraité. On l'a tenu pour mort. Et finalement, il est envoyé pour les sauver.
Ouais.
À la fin, c'est le salut qui vient par lui.
Amen.
C'est vraiment le type, là, de la grande mission du Seigneur Jésus.
Mais je disais aussi par rapport à l'humilité, il y avait, c'était dans le calendrier de la Bonne Semence, je crois, c'est le bon bout de temps, il y avait des mouflons de montagne qui s'emmenaient sur, il y avait un cap, il y avait un escarpement sur le cap, puis ils marchaient, mais sans se voir, ils marchaient l'un vers l'autre. Il n'y avait pas de place pour passer les deux, là. Fait que celui qui les observait, il dit, quand ils vont arriver, ils vont se battre, puis l'un va tomber en bas pour que l'autre passe. Puis il était vraiment surpris parce que quand ils se sont rencontrés, l'un qui s'est couché à terre, l'autre a passé par-dessus, puis ils se sont levés, puis ont continué leur chemin. C'est ça de gagner par l'humilité. Tu gagnes des plus grands combats dans l'humilité que dans l'orgueil. C'est ça, notre temps est arrivé, ça fait que on va peut-être terminer avec un mot de prière, puis s'il y en a qui veulent jaser après, on pourra jaser, mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Donc, on est bien content que vous soyez là tous ce soir pour cette rencontre encore, puis que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois parce que c'est des choses, Seigneur, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, vienne ici sur la terre pour vaincre cet ennemi terrible que nous avions, mais il a vaincu notre Dieu dans l'humilité, en se laissant mettre sur la croix comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Seigneur, il nous a appris vraiment que les grands combats, les grandes victoires sont dans l'humilité, Seigneur, puis qu'on puisse apprendre cette leçon. On te remercie pour celui qui s'est humilié pour nous. On te remercie qu'il a été souverainement élevé. Seigneur, même nous, dans nos cœurs, on va lui rendre toute la louange, l'honneur et la gloire parce qu'il a été immolé. On va voir toujours, Seigneur, ce serviteur éternel qui va continuer de nous servir dans l'éternité. Mais combien, Seigneur, nous, déjà, on veut le servir ici sur la terre, puis le servir pour toute l'éternité. Prends soin de chacun. Merci pour cette rencontre ce soir. Fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur, spécialement dans ces derniers jours, afin qu'on puisse être trouvés veillants quand ton Fils, le Seigneur Jésus, va venir pour nous prendre avec lui. Bénis chacun qui sont avec nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.